Excellent réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un nouveau conseil de défense. Aujourd'hui, de nouvelles décisions attendues contre un rebond de l'épidémie de Covid-19. Emmanuel Macron veut donner de la visibilité sur les prochaines semaines, mais sans céder pour autant à la panique. Face au président du conseil scientifique, qui estime que le niveau de circulation du virus est inquiétant, l'exécutif reprend la main.
Et puis, la question du jour sous forme de radiographie du coronavirus, Catherine, ce sera Nicolas Martin qui fera son retour et il nous dira comment il faut, selon lui, lire les chiffres de l'épidémie.
Avant cela, nous irons au congrès des infectiologues à Poitiers où une deuxième vague inquiète, bien sûr, mais les progrès acquis depuis le printemps permettent de mieux aborder la situation.
Et puis à la une, encore une troisième nuit dehors pour des milliers de migrants sur l'île grecque de Lesbos. Nous serons sur place dans ce journal.
Et puis nous monterons sur les planches de la Comédie française. Nouvelle saison perturbée par le coronavirus, public masqué et distance physique. Pour la première représentation ce soir, un seul sur scène. Les forçats de la route, d'après le grand reportage d'Albert Londres sur les souffrances des cyclistes du Tour de France. 9843 cas de Covid-19 recensés en 24 heures. C'est un niveau record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. 1 million de ces tests ont été réalisés depuis une semaine. C'est 2 fois plus qu'en juillet dernier. Mais le nombre de cas positifs, lui, a été multiplié par 12. Un rebond épidémique sur lequel Nicolas Martin reviendra juste après ce journal. Le niveau de circulation du virus est inquiétant et le gouvernement va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les 8 à 10 jours maximum, a déjà prévu Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Mais attention, la France n'est ni dans le gouvernement des scientifiques, ni dans le gouvernement de l'à-peu-près. Et c'est aux politiques qu'il revient de prendre des décisions, a déclaré hier Emmanuel Macron, avant la tenue aujourd'hui d'un conseil de défense consacré donc à la crise sanitaire. Un changement de ton de l'exécutif comparé au début de l'épidémie, Stéphane Robert.
Au moment de l'arrivée de l'épidémie de Covid-19 en France, le pouvoir exécutif semblait avoir du mal à prendre des décisions, comme à les expliquer. Raison pour laquelle il s'appuyait systématiquement sur l'avis du Conseil scientifique, comme par exemple Édouard Philippe, le 14 mars, pour justifier le maintien du premier tour des élections municipales.
Sur ce sujet des élections municipales, nous avons à nouveau sollicité le Conseil scientifique. Ils nous ont confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation.
Par la suite, l'exécutif s'est régulièrement réfugié derrière la parole scientifique qui semblait avoir pris le pas sur la décision politique. Le changement de ton d'Emmanuel Macron depuis la Corse hier apparaît d'autant plus marqué, une rupture dans le rapport entre scientifiques et responsables publics.
Il y a un conseil qui est là, il donne un avis scientifique. Et après, il y a des dirigeants qui sont démocratiquement élus qui prennent des décisions pour la vie du pays. Nous ne sommes ni dans le gouvernement des scientifiques, ni dans le gouvernement de l'à-peu-près. On est éclairés de manière transparente et vous avez l'information en même temps que nous par un conseil scientifique. Et puis ensuite, nous avons des décisions à prendre.
Comment expliquer ce changement de ton ? Peut-être par le fait que le président et son gouvernement ont acquis une certaine expérience dans la gestion de l'épidémie, que cette gestion n'est pas sanctionnée dans les enquêtes d'opinion. Ça peut expliquer cette relative confiance d'Emmanuel Macron. En tout cas, le président de la République montre qu'il a repris la main et il renvoie le conseil scientifique à un rôle purement technique et consultatif.
Et lui aussi reprend la main, le maire de Nice, Christian Estrosi, suspend les visites dans les EHPAD municipaux alors que les hospitalisations ont augmenté de 68% dans les Alpes-Maritimes. Christian Estrosi annonce également le report ou l'annulation de l'ensemble des manifestations culturelles et sportives prévues dans les semaines à venir à Nice et organisées par la ville. Et puis à Nantes, masque obligatoire partout dans la ville, dès demain, plus seulement dans le centre. La crise sanitaire encore qui pousse le campus de Sciences Po Reims à fermer pendant une semaine alors que 23 étudiants ont été testés positifs au Covid-19. Les 1300 étudiants pourront bénéficier d'un enseignement à distance. Au congrès des infectiologues qui se tient depuis mercredi et jusqu'à ce soir à Poitiers, la remontée des cas ces derniers jours préoccupe évidemment les médecins. Ils craignent une deuxième vague, bien sûr, mais ils l'abordent aussi avec une relative sérénité grâce à l'expérience et aux progrès acquis depuis le printemps, Véronique Julia.
Preuve que les chiffres se dégradent, les infectiologues marseillais ont annulé leur venue au congrès et des Parisiens ont réduit leur visite à quelques heures au lieu de rester les 3 jours pour ne pas déserter leur service. Pierre Tadevin préside la Société de pathologie infectieuse de langue française qui organise le congrès.
C'est pas vraiment le nombre de patients qui actuellement bloquent les médecins à l'hôpital, mais c'est plutôt quand ça augmente un peu rapidement, il faut réorganiser, peut-être prévoir d'ouvrir des unités. Donc certains de nos collègues du coup sont restés sur place.
Car les chiffres n'ont encore rien de comparable au printemps dernier en termes d'hospitalisation. d'hospitalisation, on n'atteint même pas 10% de ce qu'on a pu vivre à l'époque. À l'hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis, le chef du service de maladies infectieuses, Olivier Bouchot, a 10 lits Covid occupés en ce moment contre 150 en avril dernier. Grâce aux mesures barrières, dit-il, ça va remonter, mais la pente sera plus douce. En revanche, il faut s'attendre à ce que ça dure.
On est à peu près tous convaincus qu'on est parti au moins jusqu'au printemps prochain et peut-être même encore bien plus.
Mais si ça dure, on ne pourra pas, comme en avril, faire du tout Covid, préviennent les médecins. Plus question cette fois de mettre de côté les autres pathologies. Il faut continuer à les soigner, idem pour les règles de vie. Comme ça va durer, il faut que la vie continue, estime France Roblot, infectiologue au CHU de Poitiers.
Il faut qu'on vive avec. Et de façon générale, toutes les décisions qui vont être prises, il faut que ce soit simple pour que les gens y adhèrent.
La bonne nouvelle, c'est quand même, et tout le monde le dit, qu'on maîtrise beaucoup mieux aujourd'hui la prise en charge de la maladie, des progrès qui devraient limiter la mortalité de cette seconde vague.
De son côté, la Polynésie française a déploré hier son premier décès lié au Covid-19. Une octogénaire souffrant de comorbidité, elle était déjà en mauvais état de santé avant de contracter le coronavirus. Le Covid-19, qui devrait être reconnu tout prochainement comme maladie professionnelle, selon nos confrères de France Info, ce qui donne droit à une prise en charge tout d'abord à 100% des soins par la Sécurité sociale. Pour les arrêts de travail, l'indemnisation est plus avantageuse que le système classique et en cas d'incapacité, le patient peut également toucher une rente viagère.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins. Direction maintenant l'île de Lesbos, 3 jours après ces gigantesques incendies qui ont réduit en cendres le plus grand camp de réfugiés du pays.
Celui de Moria, décrit par les associations qui accompagnent les demandeurs d'asile comme la honte de l'Europe. Plus de 12 000 réfugiés s'y entassés dans la plus grande promiscuité, les violences et le désespoir. Mais la destruction de cet enfer, comme le qualifient les migrants, ouvre un nouvel abîme. Le reportage sur place de Marie-Pierre Véroux.
L'incendie du camp de Moria a jeté sur les routes de Lesbos plusieurs milliers de réfugiés qui errent sous un soleil de plomb. Ce sont des images de notre temps, comme si l'exode de 2015 reprenait sur des kilomètres, des colonnes de femmes, bébés dans les bras, d'enfants, beaucoup d'enfants, serrant des baluchons, portant des citernes d'eau, d'hommes qui poussent des charrettes, de vieillards aussi. Il faut faire vite, trouver un abri avant la nuit, éviter la police et les résidents en colère. Une famille d'Afghans presse le pas, essoufflé, apeuré.
Nous essayons de gagner le camp de Kara Tepe pour nous mettre à l'abri. Pour nous, ce n'est pas très sûr ici non plus. Nous devons partir.
Nous voulons aller dans un autre pays parce que le gouvernement grec n'aide pas les réfugiés, il ne soutient pas les réfugiés.
De fait, Athènes tarde à dépêcher les navires promis pour héberger les plus vulnérables. Certains s'arrêtent donc au hasard sur un trottoir où ils montent une petite tente. Mais la plupart d'entre eux vont passer une troisième nuit dehors, sans même parfois une couverture. Youssouf est découragé.
Comme vous le voyez, nous vivons dans ces rues depuis 2 jours maintenant. Sans nourriture, sans abri, il n'y a pas de sanitaire, pas d'hygiène, il n'y a même pas de toilette. Vous n'en verrez pas une seule ici.
Coordinatrice de Médecins sans frontières à Lesbos, Caroline Villemain ne décolère pas.
C'est notre politique européenne qui fait souffrir les gens. On a dépassé toutes limites de l'humanité. Les gens qui sont à Lesbos, ils doivent quitter cette île, ils doivent en fait quitter la Grèce, aller dans d'autres pays de l'Union européenne. Maintenant que ces camps sont vides, c'est exactement le moment de vraiment laisser les gens partir.
Pour que d'une tragédie de cette destruction puisse naître un espoir pour les réfugiés, mais Athènes refuse toute évacuation, avec le risque que cette misère qui a débordé depuis Moria jusqu'aux portes de Mytilène, la capitale, ne fasse se lever les vents mauvais à Lesbos.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale de France Culture sur l'île de Lesbos, accompagnée de Laurent Macchietti à la technique. Aux États-Unis, c'est désormais toute la côte ouest qui se bat contre des incendies gigantesques. Ces feux ont déjà fait 15 de morts, principalement en Californie. Les autres victimes ont été localisées plus au nord, dans l'État de Washington et dans l'Oregon. Près de 500 000 personnes ont reçu des ordres d'évacuation, soit quasiment 10% de la population. Et les flammes se rapprochent de Portland, la plus grande ville de l'Oregon. Le géant de de l'informatique Microsoft a révélé hier des cyberattaques venant de Russie et de Chine et visant des personnels et des organisations politiques liées à la préparation de l'élection présidentielle américaine. Des hackers qui ont ciblé notamment les équipes de campagne du président républicain Donald Trump, mais surtout de son rival démocrate Joe Biden. 200 attaques liées à des groupes de pirates russes notamment. Nous vous parlions hier dans ce même journal d'adolescents qui s'engagent pour l'environnement. Une nouvelle victoire des citoyens en Australie. Le patron de Rio Tinto, le français Jean-Sébastien Jacques, et deux hauts dirigeants ont démissionné ce matin à la suite du dynamitage en mai dernier par le géant minier d'un site ancien aborigène, Destruction, qui avait suscité un gigantesque émoi en Australie. Retour en France avec la Comédie Française qui, elle aussi, est de retour sur scène après des mois d'arrêt, après 15 semaines de web télé sur son site pour rester en contact avec son public. La troupe reprend ses spectacles en douceur avant le démarrage à la fin du mois d'une création attendue, Le Côté de Guermantes, l'adaptation par Christophe Honoré du troisième tome de La Recherche du Temps Perdu de Proust. La saison débute dès ce soir à 20h30 avec une première représentation d'un seul en scène, Les Forçats de la Route, d'après le grand reportage d'Albert Londres qui a révélé pendant l'entre-deux-guerres les souffrances des cyclistes du Tour de France. Un seul en scène conçu et interprété par Nicolas Lormeau. Benoît Grossin a suivi l'une des dernières répétitions.
Avec un lit, un lavabo, une carte de France sur scène, Nicolas Lormeau se met dans la peau d'Albert Londres pour raconter d'une chambre d'hôtel, étape par étape, le Tour 1924.
Dans les coulisses du Tour, depuis Toulon, Monsieur Albert Londres.
Quand ils dévalent d'une pente à 60 à l'heure, nous nous trouvons dans un tournant pour leur barrer la voie. C'est dans ces moments-là que dans la solitude des Pyrénées, on entend crier ce cri de détresse, on entend surgir « Ah, bandit, bandit, bandit !» Attends, on va le refaire.
Attends, c'est qui le détresse, j'envoie le son, oh là là, oh là là.
Oui, d'accord, c'est ça, donc je vais reprendre, c'est bon. C'est bon, je vais le reprendre parce que j'ai bafouillé.
Dernière répétition pour être fin prêt ou presque.
On essaye de régler ça, de retrouver la voix, de retrouver la forme, en sachant que dans un monologue, il y a toujours deux, trois moments où on se rattrape aux branches. Mais quand il y a le public, on fonce dans les taillis. On trébuche un peu, mais on tombe jamais vraiment complètement.
Avec Les Forçats de la Route, Nicolas Lormeau est le premier sociétaire de la Comédie Française à retrouver le public en salle depuis ce 16 mars où...
Tout s'est stoppé net. Et puis ensuite, on a eu un lien avec le public, avec la comédie continue. La web télé, c'était formidable cette aventure, mais c'est vrai qu'on était seuls chez nous. Et puis là, moment tant attendu, le retour avec le public. Quelques fauteuils vides, le public masqué. On espère qu'il n'aura pas trop chaud, mais ça va, il aura moins chaud que nous en tout cas. Et puis voilà, moi je suis vraiment ravi de pouvoir refaire du théâtre.
Devant 70 spectateurs au maximum, dans la salle du studio théâtre qui habituellement accueille jusqu'à 136 personnes.
Un reportage signé Benoît Grossin. Le temps de ce vendredi 11 septembre, pluvieux et orageux des Alpes à la Corse, plus ensoleillé dans le reste de l'Hexagone. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 19 et 31 degrés du nord au sud.